Nous sommes le 10 décembre 2022. Le monde célèbre la journée des droits de l'homme autour du thème « Reconstruire en mieux, défendant les droits de l'homme ». En République centrafricaine, la MINUSCA, la mission onusienne, a répertorié plus de 1000 violations de droits humains qui ont fait 2650 victimes. Le tableau est encore sombre à titre de rappel. Trois ingénieurs sont toujours détenus par un groupe armé dans la préfecture de la Vakaga au nord du pays. Les ravisseurs demandent une rançon de 60 millions de francs CFA avant de les libérer. Cependant, en octobre dernier, 9 otages avaient été enlevés et retenus à Mdafok par des hommes armés. Il aurait fallu le versement d'une rançon à hauteur de 15 millions de francs CFA par la communauté pour qu'ils soient relâchés. Un ressortissant chinois, lui, est toujours pris en otage par les rebelles de 3R à Yelewa dans la Namambéré depuis 3 semaines. Cependant, lors de la célébration du 1er décembre, une fille de 24 ans est morte des suites d'un viol collectif. L'acte serait attribué aux militaires en patrouille. Voilà quelques exemples de violations de droits de l'homme. Toutefois, la justice poursuit sa mission afin de réprimander les auteurs. C'est le pourquoi de la deuxième session criminelle à Bangui qui a pris fin ce mercredi avec 19 condamnations. Le statut du débat étant posé, place dans un instant à nos deux invités pour leurs arguments. D'abord William Djapou, docteur en droit et conseiller du président de la République en matière électorale. Monsieur Djapou, bonjour et bienvenue dans ce débat.
Bonjour, je salue l'ensemble des auditeurs de la radio Ndekeluka.
Aussi Paul Cresson Beninga, juriste et docteur en sciences politiques, porte-parole du groupe de travail de la société civile. Monsieur, bonjour.
Bonjour Armando.
C'est moi, au centre du débat. Bonjour à toutes et à tous. Le débat, c'est après cette courte pause.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
C'est pour la première fois que vous participez à cette émission, Dr Djapou. Qu'est-ce qui vous a motivé à débattre avec M. Paul Cresson Beninga et surtout sur le sujet des droits de l'homme?
Une première fois sur Patara, mais pas une première fois dans les débats et pas une première fois avec le docteur Beninga Cresson, qui est d'abord, je le précise, un frère académique, un frère de la communauté scientifique avec qui nous partageons et nous débattons. Nous mettons nos arguments souvent en jeu dans plusieurs débats sur l'actualité nationale, qu'elle soit politique ou dans d'autres débats. Et c'est aussi une occasion pour moi de pouvoir dire à l'ensemble des Centrafricains les avancées, les efforts qui sont faits par le gouvernement centrafricain sur les questions de droits de l'homme.
Monsieur Beninga, vous participez à ce débat politique d'ailleurs sur la situation des droits de l'homme. Pourquoi le GTC vous a autorisé à discuter sur ce sujet d'actualité?
Écoutez, aussi longtemps que nous sommes sur la scène politique, nous ne pouvons pas décliner la participation à un débat aussi important que celui qui porte sur les questions de violation des droits de l'homme ou sur la situation tout simplement des droits de l'homme en République centrafricaine. De mon point de vue, il s'agit là d'un débat fort intéressant, un débat qui est d'actualité et ce n'est que, je veux dire, dans un élan patriotique, dans le souci de contribuer à l'avancée de notre pays que nous avons accepté de prendre part à ce débat. Et c'est aussi un plaisir de discuter avec Dr William.
Monsieur Beninga, je reste avec vous sur le thème consacré aux violations des droits de l'homme en République centrafricaine. Vous avez dénoncé la prise en otage de 3 ingénieurs dans la Vakaga et vous avez révélé que les auteurs sont certains collaborateurs directs du président de la République ou du moins sont dans son gouvernement.
Oui, bien évidemment. D'ailleurs, je disais que d'ici à mardi prochain, je vais tenir une conférence de presse pour expliquer davantage ce que j'avais dit la fois dernière. Écoutez, lorsqu'on parle des droits de l'homme, on parle des violations des droits de l'homme, il faut aussi établir les responsabilités. Et lorsque les responsabilités sont établies, il faut envisager les sanctions en vue effectivement non seulement de sanctionner les responsables qui auraient commis ces crimes-là, mais aussi dissuader ceux qui voudraient bien effectivement leur emboîter le pas. Alors, lorsque nous avons tenu cette conférence de presse, nous avons dit ce sont des ministres en majorité ressortissants de la Vakaga. Et donc, je ne sais pas s'ils sont les proches collaborateurs du président de la République, mais ils sont tout au moins membres du gouvernement.
Donc, ça veut dire que vous remontez avec le thème d'aujourd'hui sur la violation des droits de l'homme.
Mais bien évidemment, lorsqu'on parle de la violation des droits de l'homme, de quoi il s'agit? Quelles sont les valeurs fondamentales des droits de l'homme? Les principales valeurs fondamentales des droits de l'homme, c'est la question de la dignité et la question de l'égalité. Ce sont les principales valeurs des droits de l'homme. La question de dignité, la question de l'égalité. Et lorsqu'on parle de la dignité, on parle de l'égalité, on a recours ici à ce qu'on appelle le droit à la vie. C'est-à-dire que aussi le droit de ne pas faire, par exemple, de ne pas torturer, le droit de ne pas ôter la vie à quelqu'un, le droit de ne pas prendre en otage un individu. Et mais lorsqu'on voit ce qui se passe, notamment avec les groupes armés, quand vous me posez la question en revenant sur les trois personnes prises en otage dans la Vakaga, c'est une violation des droits de l'homme. Il faut en parler, il faut dénoncer cela.
Monsieur Diapou, sur ce que vous venez d'écouter, déjà la révélation du groupe de travail de la société civile, est-ce que cela vous inquiète?
Je pense que le groupe de travail de la société civile est en train de jouer son rôle de dénonciateur, tout simplement, mais j'ose croire qu'ils auront des éléments assez probants pour appuyer leurs propos. Lorsqu'ils se permettent de porter des affirmations gratuites en disant qu'il s'agit de certains collaborateurs du chef de l'État ou membres du gouvernement qui seraient à l'origine de certaines, ou qui seraient responsables de certaines violations, je pense que c'est aberrant. Comme vous le savez, la politique du chef de l'État, qui a pris le pouvoir en 2016, il n'y avait pas, les gouvernements qui sont succédés jusqu'en 2019, il n'y avait pas d'éléments de groupe armé au sein du gouvernement. Il aurait fallu que la communauté internationale lance un processus de paix qui aboutira à l'accord de Khartoum, celui qu'on appelle la PPR aujourd'hui. Et c'est dans le cadre de cette APPR qui, je précise encore, est réaffirmée par le Conseil de sécurité des Nations Unies et par l'ensemble de la communauté internationale qui suit la République centrafricaine, que jusqu'à ce jour, je précise jusqu'à ce jour, même le dernier mandat, renouvellement du mandat de la MINUSCA, le Conseil de sécurité des Nations Unies a réaffirmé encore son attachement à cet accord de Khartoum, cette APPR-RCA. Et donc c'est dans ce cadre-là que certains éléments des groupes armés sont entrés dans le gouvernement et on l'a vu, certains sont restés parce qu'ils ont choisi la paix, d'autres sont partis. Et aujourd'hui, ils se retrouvent dans la CPC. Mais ceux qui sont restés, ils ont choisi la paix. Et aujourd'hui, ils collaborent dans ce sens-là. La politique du président du chef de l'État, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a permis en 2020 d'aboutir à la dissolution de certains groupes armés tels que les RJ Beninga, RJ Sayo, etc. En 2021, nous avons eu la dissolution partielle des 3R avec Sidiki et Abbas. Aujourd'hui, il y a de cela, je pense, près d'une semaine à peine, nous avons vu la dissolution du RPRC. De Nouaba, nous avons vu la dissolution du UFR et UFR fondamental.
Et revenons sur la question de Nouaba, que vous l'avez dit.
RPRC.
Ça fait depuis 2019 jusqu'à 2022.
Oui.
Pour qu'on puisse procéder
à la dissolution d'un groupe armé est accompagnée. Elle répond à certaines procédures, à un certain accompagnement de l'ensemble des acteurs qui sont impliqués dans l'APPR. Vous savez que dans l'APPR, il y a des garants, il y a des facilitateurs. C'est-à-dire qu'une grande partie de la communauté internationale suit avec le gouvernement ce processus qui vient d'aboutir dans tous les pays du monde. Même aujourd'hui, on parle de la guérilla, je ne sais plus, dans un pays d'Amérique latine. C'est une rébellion qui a fait quasiment 50 à 60 ans aujourd'hui avant d'être dissoute. C'est pour vous dire que c'est un processus. Et ce processus répond à certaines conditions qui, bien entendu, aboutissent. Donc c'est pour dire qu'il y a des efforts. Alors dire que certains membres du gouvernement sont ou collaborateurs du chef de l'État sont responsables de certains actes, je pense que c'est tout simplement aberrant lorsqu'on voit comment ces hommes ici contribuent pleinement au retour à la paix et à la sécurité de notre pays.
Monsieur Beniga.
Alors mon cher ami, docteur William dit une chose et son contraire. Et je vais lui prouver par A plus B qu'il est en train de dire une chose et son contraire. Il dit ici que la communauté internationale réaffirme son attachement à l'accord politique pour la paix et la réconciliation paraphé à Khartoum et signé le 6 février 2019 à Bangui. Mais en même temps, les dispositions de cet accord-là laissent entendre que tous les groupes armés signataires du dit accord devraient procéder à la dissolution de ces mouvements 90 jours après, sauf erreur de ma part.
C'est exact.
De 2019 à 2022, pratiquement 4 ans, que ces groupes armés continuent de s'aimer panique et désolation dans l'arrière-pays. Ce qui est d'autant plus choquant, aujourd'hui, les représentants de ces groupes armés continuent effectivement de siéger au sein du gouvernement et en même temps entretiennent des mouvements armés dans l'arrière-pays. Et lorsque on parle, il faut revenir au thème. Lorsqu'on parle de l'actualité, lorsqu'on parle des droits de l'homme, je donne un exemple simple. Droits de l'homme, aujourd'hui, quand on prend le thème qui est d'actualité, le thème de 2022, on parle de quoi? De dignité, de liberté et de justice pour tous. Je prends un seul exemple. Un seul. Vous prenez le ministre
Hassan Bouba, qui représente au sein du gouvernement pendant de longues années le mouvement CPC. Après, il aurait affirmé qu'il s'est...
Le mouvement UPC.
Il s'est désolidarisé de l'UPC, n'est-ce pas ? La justice a mis la main sur Hassan Bouba. Dans un état de droit, dans un état où les droits de l'homme sont respectés et que tous les citoyens sont égaux devant la loi, ce ministre serait en train de répondre de ses actes devant les tribunaux. Ça n'a pas été le cas. Ce ministre a bénéficié de la protection des institutions de la République. À partir de ce moment-là, on va dire que nous sommes en train d'accuser les gens. On revient au cas de la Vakaga, les prises d'otages de la Vakaga. Oui, je veux bien. Mais je veux dire, il faut éviter de faire cette politique qui consiste à faire du saupoudrage, à trouver des palliatifs, dénonçons. Et soyons courageux. Mais je comprends la position de Dr. William. Il travaille dans le cabinet du président de la République. Il est tenu de certaines obligations et il ne peut pas aller très loin. Mais qu'il me laisse aller très loin. Lorsqu'il y a combien de groupes armés dans la Vakaga ? Il a cité le groupe armé de Diono Abba. Il n'a pas cité le groupe armé de Toumoudéya. L'actuel ministre des TP, il faut le dire. Comment est-ce qu'il a fait pour se retrouver dans le gouvernement ? L'actuel ministre d'État à la justice, il y a au moins 6 groupes, sinon 7 personnes représentant des groupes armés au sein du gouvernement. Allez au ministère des Eaux et Forêts, allez au ministère des TP, allez au ministère de la Justice, allez au ministère de Transport, allez au ministère de DDR avec le ministre délégué Toumoudéya qui vient de nous faire, de donner une interview sur les ondes de la radio Ndekeluka, affirmant qu'il vient de dissoudre MLCJ. Je pense qu'à un moment donné, on n'a pas besoin d'aller très loin. On connaît ceux qui sont responsables. Quels sont les groupes armés qui sont actifs dans la Vakaga ? Et quels sont les responsables aujourd'hui qui sont dans le gouvernement, hein, issus de ces groupes armés-là ? Et quelle est la plus-value ? Lorsqu'il me dit, par exemple, que c'est en 2016 que ces personnalités ont fait leur entrée en 2019 que ces personnalités ont fait leur entrée au gouvernement à la faveur de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Mais est-ce qu'il sait que depuis 2013, certains membres du gouvernement, dont je viens de citer les noms, sont dans le gouvernement avant 2019? Il y en a qui sont allés. Je prends le cas par exemple de Diono Abba. Est-ce que vous savez par exemple que Diono Abba était membre du gouvernement? Il était allé à Khartoum et il ne siégeait pas parmi les membres du gouvernement, mais il représentait son mouvement armé. Est-ce que c'est faux? Qu'on me dise que c'est faux ici, autour de cette table.
On va donner la parole à vous, monsieur William Djapou, docteur, sur cette question. Quel est le dividende, hein, de l'accord de Khartoum au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays?
Je pense tout d'abord que, je vais y arriver, je pense tout d'abord que les propos du docteur Beninga, il dit beaucoup de choses, mais il ne dit aussi rien. Lui donner quelques éléments.
Mais en attendant, est-ce que ça vous va de commencer sur...
Très bien.
Ça vous permettra
justement,
de répondre.
Je vais répondre d'une pierre deux coups, parce que la question principale, elle est celle-là qui concerne l'accord de Khartoum, la présence de certaines personnalités au sein du gouvernement et aussi l'impact sur les droits de l'homme. Donc, ces questions sont liées. Il faut comprendre que l'accord de Khartoum, c'est un accord vraiment salutaire pour la paix. Il a permis, de mettre à la table l'ensemble des acteurs concernés par le conflit que nous vivons. Et à travers de cet accord, il y a eu des engagements fermes et certains des leaders de ces groupes armés sont entrés dans le gouvernement pour pouvoir aller dans le sens de la paix. Et justement, cet accord a connu et su d'autres éléments qui se sont agrippés, qui se sont ajoutés, tels que la feuille conjointe de route de Luanda, qui nous permet aujourd'hui, qui comme une poursuite de cet accord ou bien une revitalisation de cet accord, qui encadre la fin du processus de dissolution qui est engagé et qui aboutit actuellement à la dissolution de certains groupes armés. Alors, cet accord de Khartoum, l'un de ses dividendes essentiels, et vous pouvez le constater avec moi, le dernier rapport, je dis bien le dernier rapport qui date de décembre de la commission, la division des droits de l'homme de la MINUSCA, sur les droits de l'homme a fait état de plusieurs atteintes aux droits de l'homme, mais qui ne sont pas attribuées en grande partie aux groupes armés qui sont restés fidèles à l'accord de Khartoum. On va vous dire que la plupart des exactions sont commises par la CPC ou par des groupes armés non identifiés, c'est-à-dire qui ne sont pas parmi ceux qui sont restés fidèles à l'accord de Khartoum. C'est pour dire quoi, tout simplement?
On le saura comment? On va les identifier comment? Parmi ceux qui sont déjà dans l'accord ou bien qui ont accepté de signer cet accord et ceux qui ne sont pas.
C'est-à-dire que les responsables
des groupes
armés
sont toujours
sur
le terrain.
Dans le gouvernement, les groupes armés, leurs groupes armés ne commettent pas d'exactions ou commettent peu d'exactions. C'est ça la conclusion. Mais vous allez voir que la plupart des exactions sont commises par des groupes armés qui ne sont pas signataires de l'APPR ou qui sont sortis de l'APPR et qui se sont construits dans la CPC. C'est pour dire que cet accord marche à une certaine mesure, il marche. Il n'est pas parfait. D'ailleurs, rien n'est jamais parfait, mais il marche. Et il a permis aujourd'hui de finaliser, malgré les hauts et les bas, malgré tout ce qu'il y a pu avoir, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, nous sommes dans le conflit centrafricain, nous sommes en conflit. Nous ne sommes pas dans une période post-conflit, nous sommes dans une période conflictuelle. Et malgré cela, nous arrivons aujourd'hui à limiter les atteintes des droits de l'homme, nous arrivons à poursuivre un processus de pacification. C'est ça, cet accord a permis de poser les bases de ce vers lequel nous sommes en train d'aller.
Alors, moi je voudrais dire ici, Armando, que le docteur William ne suit pas l'actualité du gouvernement, parce que je suis très très heureux d'entendre que nous sommes encore dans une période conflictuelle. Ça vient de lui, hein, ça ne vient pas de moi. Mais lorsque vous prenez tous les discours du gouvernement et du chef de l'État, on nous fait comprendre que nous sommes déjà dans une dynamique post-conflictuelle et la question de la sécurité, elle est réglée et que nous sommes en train d'amorcer le développement, au risque de me tromper. Mais c'est ce qui ressort des discours du gouvernement.
Et je rappelle en passant que le ministre porte-parole du gouvernement ici, sur le plateau de Patara, a confirmé que le territoire est contrôlé actuellement à 100%. Voilà. Par
alors,
les forces armées.
Le conseiller du président de la République vient de nous dire que nous sommes dans une période conflictuelle. Alors moi j'ai de la peine à comprendre ce qui se passe, mais passons. Revenons à l'accord. Vous voyez, il dit ceux qui sont restés dans l'accord de Khartoum commettent très peu d'exactions. En fait, il est dans une forme.
Ou quasiment pas.
Il est dans une sorte d'autoconsolation. C'est un technicien ou un théoricien de l'à peu près. En réalité, en 2022, 10 décembre 2022, on ne devrait plus parler des groupes armés, qu'ils soient signateurs ou non de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Pour une raison simple, les dispositions de cet accord-là sont claires. 90 jours après la signature du dit accord, il faut procéder à la dissolution de tous les groupes armés. Ceux qui veulent continuer n'ont qu'à transformer ces mouvements armés en des mouvements politiques, au risque de me tromper. Je n'ai pas l'accord sous les yeux, mais ce que je sais. Maintenant, du moment où ces groupes armés-là existent, il y a problème. Lorsqu'il continue de vanter l'accord politique, mais l'accord politique pour la paix et la réconciliation est devenu caduque. Pourquoi ? Simplement parce que la création de la CPC résulte en partie de l'échec de cet accord-là, de ce point de vue-là. Combien de groupes armés signataires de cet accord ? Ce sont ceux qui sont dans le gouvernement avant l'accord politique pour la paix et la réconciliation. On peut faire pratiquement le bilan. 80% des groupes armés qui proclament leur fidélité à cet accord-là, ce sont ceux qui ont bénéficié de quelques postes que ce soit déjà dans le gouvernement avant la signature. Ceux qui ne sont pas là, ce sont ceux qui n'ont pas eu de la place, manifestement, avant la signature de cet accord-là. C'est ce que je voudrais dire d'entrée de jeu. Je voudrais également rappeler ici les dispositions, et c'est lui le juriste, c'est lui le juriste pur, parce que moi, après le droit, je suis passé de l'autre côté en sciences politiques. Les dispositions de la Constitution du 30 mars 2016. Que disent les dispositions de la Constitution du 30 mars 2016 concernant la présence des représentants des groupes armés, concernant la présence de ceux qui ont pris les armes contre les filles et les fils de la République? La Constitution est claire, ils n'ont pas leur place dans les institutions de la République, non pas uniquement dans le gouvernement, mais dans toutes les institutions de la République. Ça, c'est un. Docteur William le sait. Que disent les recommandations du dialogue républicain? Les Centrafricains ont réitéré leur volonté de ne plus jamais admettre dans les hautes institutions de la République tous ceux qui ont pris les armes contre les fils et les filles de ce pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et quel est le bilan? La question, vous avez posé la question du dividende. Docteur, manifestement, docteur William n'a pas voulu répondre, mais quelle est la plus-value? Quelle est la plus-value? C'est la question que je pose. Quelle est la plus-value aujourd'hui de ces représentants des groupes armés au sein du gouvernement? Si aujourd'hui, dans la Vakaga, ces représentants ont encore des groupes armés qui sont actifs et qui continuent à prendre en otage le peuple centrafricain, à prendre en otage les fils de ce pays qui vont travailler, ils ne demandent que ça, aller travailler pour le pays et pour la population centrafricaine. Et ces personnes-là sont prises en otage. Quelle est donc la plus-value de ces représentants des groupes armés au sein du gouvernement?
Monsieur William. Mais monsieur Beninga Cresson nous a donné en partie une réponse. Quelle est la plus-value? Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, grâce à l'accord politique pour la paix et la réconciliation, le gouvernement a pu intégrer l'ensemble des acteurs qui étaient à l'origine ou à la cause de la crise centrafricaine. Et grâce à cette initiative, nous avons pu progressivement poser les bases de la paix. Vous allez voir qu'en dehors de la question de la dissolution des groupes armés, il y a les questions de justice transitionnelle, il y a les questions du SMS, il y a les questions de DDR qui ont pris également une avancée immense sur les différents plans. Mais le dividende, pardon, dans le cadre de la journée des droits de l'homme, c'est les violations. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que la PPR a permis, oui ou non, de réduire les violations des droits de l'homme? Et je vais répondre par l'affirmative. Et ça, ce n'est même pas moi qui le dirai. Ce sont les rapports, les comptes rendus des Nations Unies. Ce sont les comptes rendus. Récemment, nous avons reçu à Bangui l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine. Qu'est-ce qu'il a dit au sortir de sa conférence de presse? Je précise, il salue les efforts immenses qu'a accompli le gouvernement centrafricain dans la réduction des atteintes aux droits de l'homme. Voilà ce qu'il faut retenir. Au-delà de tous les concepts, de toutes les théories ou de toutes les définitions que le docteur Beninga veut nous expliquer ou veut nous faire comprendre, concrètement, le gouvernement centrafricain aujourd'hui permet, à travers ces différentes actions, d'accompagner la réduction des atteintes aux droits de l'homme et également la promotion de ces droits de l'homme. Et bien sûr, on peut même faire tout un bilan sur les actions qui ont été accomplies.
Une question pour vous, le GTSC, par le biais de Paul Cresson Beninga ici, a fait cette révélation dans l'affaire kidnapping des ingénieurs en génie civil. Le président de la République, Faustin Archange Touadéra, lui, voit la main de l'opposition derrière cet acte. Ne pensez-vous pas que le pouvoir est désormais marqué au fer rouge?
Ce sont des affirmations gratuites encore. Le président de la République, chef de l'État, a récemment, c'est pas le président de la République, chef de l'État, c'est le gouvernement, à travers le porte-parole le porte-parole du gouvernement qui a fait un communiqué pour dénoncer ce qui s'est passé dans la Vakaga et a lancé des accusations sur les éléments des groupes armés, notamment de la CPC. Voilà ce qui est concret. Et ce communiqué est disponible. Alors je ne sais pas d'où est-ce que le GTSC tient ces informations. Ce serait aussi une occasion pour eux de nous en dire un peu plus.
Oui, monsieur Beninga.
Avant de réagir, docteur William, une fois de plus, vous venez de dire quelque chose d'extrêmement grave. Lorsque vous dites l'accord politique pour la paix et la réconciliation a permis à ce qu'on puisse prendre en compte l'ensemble des acteurs, notamment les entrepreneurs de violence armée.
L'ensemble des acteurs dans le contexte de l'époque.
Bien évidemment, évidemment. Je vais vous faire observer quelque chose. Voyez-vous, aujourd'hui, la violence sous toutes ses formes est devenue une ressource mobilisable pour avoir accès à la gestion de la chose publique dans ce pays. Et l'un des pièges dans lesquels le politique centrafricain, l'élite politique centrafricaine, l'élite politique dirigeante est tombée, c'est justement le fait de prendre ces entrepreneurs de violence comme des gens qui pourraient apporter quelque chose à l'avancée de la République. Pourquoi ? Simplement parce que c'est des gens qui mobilisent la violence, et en l'occurrence la violence armée, comme étant un moyen d'avoir accès à la gestion de la chose publique, tout simplement. Et aussi longtemps que nous allons considérer cette politique comme étant la meilleure, on n'aura jamais mis terme au phénomène de violence armée dans ce pays. Pourquoi? Simplement parce que les gens diront que j'irai prendre les armes, après je vais à la table de la négociation, je vais intégrer le gouvernement. C'est devenu une ressource, la violence armée. C'est devenu une ressource. Et le combat qui est le mien, c'est de faire comprendre à notre élite politique dirigeante que on peut faire sans cet accord-là. On peut connaître des avancées sans cet accord-là. Ces ministres représentants des groupes armés, ils n'ont pas de plus-value dans ce gouvernement. Le président de la République peut travailler avec d'autres fils de pays et de faire développer ce pays sans ces personnes-là. Il ne faut pas que, lorsque les gens prennent le chemin de la violence, qu'ils soient récompensés. Et la récompense, c'est qu'ils soient intégrés dans les institutions de la République. Quel message nous envoyons à ceux qui lutte pacifiquement dans ce pays? C'est extrêmement dangereux. Maintenant, je reviens à la dernière préoccupation, la question à laquelle vous répondez, et Armand Doma a reposé la même question, concernant la prise de position du GTSC. Et vous dites qu'il s'agit là d'une affirmation gratuite. Une fois de plus, c'est votre point de vue. Je ne vais pas aller très loin pour dire que la déclaration du chef de l'État en ce qui concerne les groupes armés dans la Vakaga relève également de l'affirmation gratuite. Vous et moi sommes des chercheurs. Au-delà de cette casquette d'homme politique que vous avez, nous sommes des chercheurs. Répondons froidement à cette question. Quels sont les groupes armés qui sévissent dans la Vakaga?
En ce moment.
Quels sont les groupes armés? Le 6 décembre, oui. On vient d'avoir la démonstration.
Allez-y.
Djounab a décidé de dissoudre.
Quels sont les groupes armés actifs dans la
Vakaga?
C'est
moi qui pose la question. Allez,
oui, je vais vous répondre.
Djounab vient de dissoudre son mouvement. Oui. Son mouvement se trouve où?
À Bria, je précise.
Et ça fait une semaine.
Ce n'est pas la Vakaga, c'est la Haute-Coteau.
J'en viens.
Allez-y.
MLCJ vient de dissoudre son mouvement. Son mouvement se trouve où?
Dans la Vakaga.
L'actuel groupe armé qui a pris les gens en otage, c'est quel groupe armé?
C'est le FPRC.
Ça vient d'où?
Noureddine Adam, la CPC.
Qui a réclamé?
C'est la CPC.
Non, je dis qui sont ceux qui ont réclamé la paternité de ce mouvement. Est-ce que Noureddine a réclamé la paternité de ce mouvement, de ces prises d'otages?
Et qui a réclamé cette paternité? Vous êtes encore en train d'affirmer.
Non, c'est pas une affirmation gratuite.
Allez-y, dites-nous qui a réclamé cette paternité.
Moi, j'ai promis que le vendredi, je donnerai les noms. Et je le ferai. Je le ferai.
Lorsque vous n'avez pas
d'informations, ne dites pas que le gouvernement central africain. Non, ne dites pas. Non, le gouvernement le sait très bien, mais le gouvernement ne veut pas en parler. Tout simplement. C'est ce que ça veut dire. Donc, je voudrais vous inviter. Je voudrais vous inviter à être froid dans l'analyse. J'aurais aimé que vous ne vous prononciez pas là-dessus que de dire qu'il s'agit là d'une affirmation gratuite. Vous avez fait la cartographie des groupes armés et vous vous rendez compte effectivement que
vous vous plaisez à avancer énormément d'éléments sans citer les sources. Vous savez que dans la rigueur scientifique, il faut citer ces sources-là. Puisque vous nous tenez en haleine pour attendre vendredi, nous attendrons donc vendredi.
Néanmoins, nous pouvons débattre. Aujourd'hui,
la source principale de ce qui s'est passé dans la Vakaga, celle que nous avons le compte-rendu de la MINUSCA qui a parlé d'éléments armés non identifiés et le communiqué du gouvernement qui a parlé d'éléments de la CPC. Voici les sources officielles que nous avons. Alors, je ne sais pas quelle source le GTSC aurait de plus que le gouvernement sur la communauté internationale.
Mais est-ce que, docteur, vous pensez que vendredi, ce n'est pas encore loin?
Très bien.
Est-ce qu'on ne peut pas...
Alors, je voudrais continuer sur un aspect. Le docteur Beninga fait un focus sur la présence de certains leaders des groupes armés au sein du gouvernement.
C'est vous qui avez évoqué la question, hein. On est d'accord.
Il fait un focus.
C'est vous qui avez dit que l'accord politique pour la paix a permis de prendre en compte tous ces acteurs-là.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est vous qui avez évoqué l'affaire.
Oui.
Je ne fais pas un focus.
La prise en compte de l'ensemble des acteurs impliqués dans la crise qui doivent contribuer.
Alors
comment peut-on amener la paix si ceux qui ont pris les armes ne sont pas associés?
Comme vous l'avez dit, de tout ce que vous avez évoqué, ils ont été associés, ils sont encore là aux affaires.
Bien sûr.
Mais qu'est-ce qui a fait de bien dans tout ce que vous avez
évoqué? Je vais par exemple vous parler du ministre Hassan Bouba, de l'ex-UPC, qui a contribué aujourd'hui énormément au désarmement de plusieurs éléments de l'ex-UPC dans la Waka, dans la Basse-Kotto et dans d'autres régions de ce pays. Mais c'est immense. Vous vous rendez compte de cela? C'est un bond en avant. Aujourd'hui, il contribue à la paix à travers ses actions auprès des anciens éléments des groupes armés qu'il a eu à gérer. Et il n'est pas le seul. Aujourd'hui, la quasi-totalité des éléments du groupe qui a été dissous, de certains groupes qui ont été dissous, ont été désarmés ou alors, conformément à l'accord, incorporés, retournés à la vie active dans le cadre du DDR ou incorporés dans les forces armées. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a une certaine pacification, une certaine paix dans plusieurs zones du pays, ce qui n'existait pas avant. Vous le savez qu'en 2013, nous ne pouvons pas circuler librement de Bangui à certaines zones de ce pays. Aujourd'hui, nous pouvons le faire. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu également le redéploiement de l'autorité de l'État. C'est dans ce cadre-là qu'on retrouve aujourd'hui des gendarmes, des policiers, des facas sur la quasi-totalité du territoire national. Ces éléments contribuent énormément, non seulement par leur influence, leur lobbying, leur discours, leur descente sur le terrain, à ce que la paix revienne dans ce pays. Et ça, il faut le mettre à l'actif de l'APPR. Oui, c'est un dividende à mettre en avant.
Vous voyez pourquoi j'ai dit que nous prenons ce qui est anormal pour en faire ce qui est normal. Nous rentrons dans ce que j'appelle la banalisation du mal. Vous voyez, vous prenez aujourd'hui Hassan Bouba pour un modèle dans ce pays. Et ceux qui nous écoutent, vos étudiants qui vous écoutent, docteur, qu'est-ce que vous voulez qu'ils retiennent? C'est-à-dire, je prends les armes et j'aurai accès à la gestion de la chose publique comme gestionnaire et on me prend pour modèle. Est-ce que c'est sérieux? Lorsque vous évoquez Hassan Bouba comme modèle aujourd'hui
des acteurs.
Non, c'est vous, c'est pas moi.
Monsieur Hassan Bouba, par ses actions, contribue à une mission de paix.
Vous l'avez déjà relevé. On écoute, je ne sais pas.
Moi, je voudrais également que vous ayez de la patience lorsque je prends la parole.
Allez-y.
C'est la deuxième.
Donc,
je suis en train de dire ceci. Il faut éviter de prendre ce qui est anormal et en faire ce qui est normal. Il faut éviter de banaliser le mal. Il faut éviter de faire la confusion entre le bien et le mal. Nous sommes dans une république et la république n'admet pas ce genre de pratique. Vous vantez aujourd'hui l'apport, la contribution d'Hassan Bouba. Vous pensez que ce n'est pas un acteur? Vous pensez que est-ce la première fois aujourd'hui que les acteurs de groupe armé se comportent comme ça? Est-ce la première fois? L'autre ne s'était pas comporté de la même manière comme ça. C'est lui qui est aujourd'hui à la CPI, Mokom. Mokom est allé dans l'arrière-pays pour dire que j'ai désarmé mes éléments, voici mes éléments, je les mets à votre disposition. Où est le résultat aujourd'hui? Le résultat, il se retrouve encore dans la CPC.
Donc, à un moment donné,
le résultat, il s'est retrouvé dans la CPC. C'est pour dire qu'il n'était pas sérieux. Et je ne crois pas à la sincérité de tous ces bonhommes-là dans ce gouvernement-là. Ce ne sont que des acteurs. Ils ne vivent que de ça. C'est des entrepreneurs de violence. Ils ne vivent que de ça. Ils ne vivent que de ça. Ils ne font que de chantage. Ils font comprendre au gouvernement que nous avons d'hommes sur le terrain. Nous avons des éléments sur le terrain. Nous avons des mouvements qui sont actifs. Il faut arrêter ça.
Monsieur Beniga, est-ce qu'ils
sont obligés d'entrer dans le gouvernement pour procéder, par exemple, au désarmement de leurs éléments?
Vous avez 2 minutes 30 secondes sur monsieur William Djapou. Prenez la parole pour répondre et compléter.
Je suis très, très content des propos du docteur Beniga quand il affirme que malgré le fait que certaines personnes ou certains éléments de groupes armés seraient dans le gouvernement puis se retrouveraient à la CPI, c'est pour dire que la justice continue à travailler d'elle-même. Il est en train de montrer que la justice fonctionne en République centrafricaine. Mais en fait, ce n'est pas sur cette question-là que je voulais principalement réagir. Je voulais dire tout simplement que je croyais que le docteur Beniga serait moins juriste avec des concepts et des théories parlant de République, etc. et plus politique, c'est-à-dire plus dans la pratique. Au-delà de tous ces aspects conceptuels et théoriques, il y a la gestion du pouvoir, la gestion de la nation, la gestion d'une société qui se fait au fur et à mesure et en fonction des circonstances qui se posent. En 2016, lorsque le président de la République a pris le pays, il a pris un pays où il n'y avait pas d'armée. Il a pris un pays où il n'y avait pas d'économie. Il a pris un pays qui était au plus bas niveau. Quelques années après, où en sommes-nous aujourd'hui? Voilà la question qu'il faut se poser. Où en sommes-nous? Est-ce que les violations des droits de l'homme en 2016 sont les mêmes qu'en 2022? Est-ce qu'il y a eu des avancées, oui ou non? Et c'est ça qu'il faut... Non, le centrafricain n'a pas besoin de dire que la République, c'est des théories, c'est des concepts. Il a besoin que concrètement, on lui dise aujourd'hui, est-ce que ça ne va pas mieux qu'à l'époque? Et ça, je vais y répondre. Je suis centrafricain, vous l'êtes. Oui, ça va mieux qu'en 2016.
Armando, je pense que je n'ai jamais évoqué une théorie ici, ni une définition, ou mobilisé un cadre conceptuel. Et même si je le fais, c'est à raison. Je ne peux pas aujourd'hui parler de ces questions sans pour autant mobiliser théorie et concept. La science n'est que ça. Mais vous évoquez une question, vous avez abordé un sujet qui, de mon point de vue, est sur un terrain extrêmement glissant pour vous. Vous dites ça montre que la justice travaille. Je veux bien qu'on en parle. Avec la permission d'Armando, je réponds juste 30 secondes.
Justement, s'il vous plaît, deux. Et justement, parlons de la justice. Nous évoquons aussi le bilan des droits de l'homme. Écoutons Anna Talbi, directrice de la division de droits de l'homme de la MINUSCA, qui dresse ici un tableau encore plus sombre des violations des droits humains dans le pays.
Entre janvier et novembre 2022, on a documenté plus de 1070 violations et atteintes aux violations des droits de l'homme à travers le pays, qui ont fait 2666 victimes, dont au moins 262 femmes et 540 enfants. Violations des droits de l'homme concernant les acteurs étatiques, il y a eu plus de 506 violations, et c'est pour l'essentiel des détentions, des arrestations arbitraires, des exécutions extrajudiciaires et autres meurtres et des mauvais traitements. Les groupes armés sont également responsables de 521 atteintes. Si on regarde le bilan de cette année en matière de violences sexuelles liées au conflit, vous noterez une diminution assez drastique, plus de 60% de diminution en moins. On sait que les victimes de violences sexuelles ont beaucoup de mal à s'exprimer. Donc le chiffre ne veut pas dire forcément qu'il y a moins de violences sexuelles, mais c'est juste que on a eu plus d'accès l'année dernière par rapport à cette année.
C'était donc Anna Talbi, directrice de la division de droits de l'homme de la MINUSCA. Dans ce rapport de la MINUSCA, les groupes armés sont aussi reconnus responsables de beaucoup de cas. Et si leurs leaders sont identifiés très proches des autorités, pourquoi ne pas les interpeller? Vous reprenez avec votre rebondissement tout à l'heure, docteur Beniga, sur la question de la justice.
Oui, tout à l'heure, docteur William me fait comprendre que la justice marche. Non, c'est une justice impartiale. Docteur William, nous avons connu deux camps dans ce pays, n'est-ce pas? Nous avions d'une part les anti-Balaka et d'autre part la Seleka. On peut faire le calcul simple. Qui sont ceux qui sont beaucoup plus interpellés aujourd'hui devant les tribunaux internationaux? Qui sont ceux qui sont beaucoup plus interpellés? Ce sont les anti-Balaka. On est d'accord sur ce point. Il ne va pas avoir quand même un désaccord. On est d'accord. Maintenant, les Seleka. Le bilan. Quand vous prenez tous les groupes armés qui sont aujourd'hui dans le gouvernement, 99% des représentants
proviennent de la coalition Séléka. On est d'accord. À partir de ce moment, la tentation est trop grande de dire que ce sont les Balaka, les anti-Balaka, qui sont jusqu'ici beaucoup plus pourchassés que les Séléka. Mais je ne rentrerai pas dans ce débat-là. C'est les
vous
statistiques. C'est les statistiques. C'est les statistiques qui nous donnent. On est d'accord. C'est les statistiques qui nous donnent ces chiffres. Ce n'est pas moi. C'est une réalité. C'est pour vous dire que faisons très attention. Et donc, lorsqu'on parle maintenant de la violation des droits de l'homme, oui, la MINUSCA fait un travail qui, de mon point de vue, est intéressant. Mais c'est un travail de constat, un travail de recensement. Mais il faut aller au-delà. Et ça, la responsabilité incombe à l'État centrafricain. Les questions relatives aux violations des droits de l'homme doivent être prises au sérieux. Et aujourd'hui, il faut établir les responsabilités. On a vu effectivement que les groupes armés continuent, que ce soit ceux qui sont signataires de l'accord politique pour l'accord de paix, que ce soit ceux qui ont dénoncé cet accord-là ou ceux qui ne l'ont jamais signé, continuent effectivement de s'aimer panique et désolation. Mais ce qui est embêtant, il n'y a pas que les groupes armés. Il y a aussi certaines institutions de la République. C'est ça qui est un peu choquant. Lorsque, par exemple, on évoque le cas des forces de défense et de sécurité, je pense que pour ces cas-là, il faut de la discipline. Il faut les sanctionner, il faut identifier les responsables, les sanctionner, non seulement pour faire comprendre à ces responsables-là que la République doit marcher et que la République, c'est un état de droit, il faut respecter les droits des uns et des autres, mais aussi faire de telle sorte que ces sanctions qui sont prises puissent constituer un mécanisme de dissuasion pour ceux qui pourraient effectivement emboîter le pas à ceux qui ont commis les crimes.
Et sur le rapport de la MINUSCA, oui. Monsieur
tout à fait. Alors, moi, je travaille sur le rapport, je le maîtrise. Je tiens à préciser, parce que peut-être vous ne l'avez pas ici avec vous, je tiens à préciser que dans les violations des groupes armés, 75% sont affectés à la CPC, à la Coalition des Patriotes pour le Changement. Il faut le préciser. 75% des violations des groupes armés de le rapport trimestriel de la MINUSCA celui d'octobre 2022 sont associés à la Coalition des Patriotes pour le Changement. Là, il faut d'abord le préciser. Bon, maintenant, je tiens à aller plus ou moins expliquer à quel point la justice travaille dans notre pays. D'abord, sur la question des droits de l'homme, nous avons dédié tout un ministère, celui en charge de la justice, qui est en charge de la promotion et la défense des droits de l'homme, qui s'occupe de cela. D'ailleurs, récemment, le ministre de la Justice, qu'il critiquait, avait même lancé ce qu'on appelle l'évaluation périodique universelle, qui réunit tous les acteurs nationaux sur les questions des droits de l'homme et qui font un rapport sur la situation. Ça veut dire que maintenant, au niveau national, nous aurons un rapport sur la situation des droits de l'homme. Au-delà de cela, nous venons de renouveler le mandat de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est déjà opérationnelle, qui fonctionne également et qui travaille avec les ensembles des acteurs impliqués. Mais le chef de l'État est allé bien plus loin, parce que pour lui, la question des droits de l'homme est très, très importante. Il est même allé jusqu'à récemment, vous avez suivi la traite, la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été promulguée par le président et le chef de l'État. Tellement cette situation lui tient à cœur, il a même désigné un point focal au niveau de la présence, le ministre Bemakasui, qui s'occupe des questions relatives à la traite des personnes. Et il est encore allé plus loin récemment. Nous avons eu la nomination pour la première fois d'un conseiller en matière des droits de l'homme qui travaille aussi avec l'ensemble des acteurs. Le ministre Emery est là. C'est dire que la question des droits de l'homme est prise par les acteurs étatiques. Maintenant, il y a la question des violations qui ont été commises par... qui seraient commises, ce sont des allégations, des spéculations, ce sont des constats,
des informations
non vérifiées encore, certaines violations auraient été commises par les forces régulières ou alors associées. Ces questions ont fait l'objet récemment d'une instruction ferme du gouvernement, dirigée par le Premier ministre Félix Moulouya, qui a instruit les inspections de l'armée, de la police, de la gendarmerie, d'aller sur le terrain et d'enquêter, et si besoin est, si ces accusations sont avérées, de prendre les mesures qui incombent. C'est dire qu'il y a une volonté déjà, qu'il y a une volonté politique.
Vous l'avez évoqué avant de poursuivre, de donner la parole à M. Paul Kassa Beniga. Ouais. Christiana, 24 ans, c'est cette jeune femme succombée des suites d'un viol collectif attribué selon ses parents aux militaires en patrouille dans la nuit du 1er au 2 décembre au quartier de la Kwanga dans le 2e arrondissement du Bangui. Écoutons Madeleine Kobo, la maman de disparu, au micro de Christ de Roi Jordan Bademé.
Et quand je suis entrée, j'ai vu que l'enfant était déjà inconscient. C'est ce qu'elle a dit à mon neveu. Là. Elle lui a dit que ce sont les militaires de la patrouille. C'est ce qu'elle a dit. On n'était pas là, on ne savait pas. C'est après investigation le lendemain pour aller voir si elle était malade. Les gens m'ont dit non, hier elle était ici dans le marché. C'est après qu'elle est partie voir la course des pirogues. Hein? Les militaires sont là pour nous secourir. Lorsqu'ils font la patrouille, là, s'ils trouvent quelqu'un, ils peuvent bien aider cette personne à rentrer chez lui. Ou si c'est un bandit, automatiquement, ils doivent réagir en tant qu'un bandit. Mais une simple fille, une simple dame, même si l'heure de couvre-feu était déjà effective, c'est pas avec la violence. Hein? Mais pourquoi cet état de choses?
Voilà, Monsieur Prokessan Beniga, vous écoutez cette dame qui a déploré parce que sa fille Christiana a trouvé la mort des suites d'un viol collectif. Est-ce que vous aussi, au niveau de GTSC, vous avez eu cette information, même en écoutant cette dame, quelle est donc votre réaction?
Oui, nous avons suivi cette information. C'est un acte qui est à condamner. Et si les enquêtes révèle effectivement que ce sont les forces de défense et de sécurité qui se sont comportées de cette façon-là, je pense qu'il faut les sanctionner durement. Il faut les sanctionner durement parce que ce n'est pas normal. Cette jeune dame ne mérite pas ce crime-là. Cette dame ne demande qu'à être libre de ses mouvements et aller jusqu'à commettre ce genre de forfait. Je pense que nous revenons de très loin. On se souvient que nos forces de défense et de sécurité, surtout nos forces de défense, ont été placées sous embargo. Il y avait des mesures à l'échelle internationale très dures à l'égard de nos forces de défense et de sécurité. Et si on commence à sortir de cette sanction, les responsabilités en fait sont partagées. Tout le monde doit faire de telle sorte que les choses évoluent. Mais si vous m'accordez une minute de plus, je voudrais répondre ici à mon cher ami docteur William qui évoque la question de ce rapport en disant que ça pourrait être des allégations et autres avec des conditionnels. En fait, ce discours-là est le propre du gouvernement centrafricain. Je ne suis pas surpris. Lorsque un document sort, lorsque ça arrange les affaires du gouvernement, on accorde du crédit à ce document-là. Lorsque ça n'arrange pas ses affaires, alors c'est un document à balayer des revers de main. Le même docteur ici a évoqué les statistiques en ce qui concerne les groupes armés. Mais lorsque maintenant il faut revenir aux forces de défense et de sécurité, il demande à ce que les choses soient nuancées. C'est aberrant. Ça me rappelle le rapport. Je crois en 2019, il se souvient très bien de ce rapport. On s'en est servi devant la Cour constitutionnelle pour destituer le député Karim Mekassoua. Mais dans le même rapport, et je rappelle, je ne cesserai jamais de rappeler cela, dans le même rapport, un ministre d'État aujourd'hui a été cité, il dit que je critique beaucoup le ministre d'État à la justice. C'est une réalité. Dans le même rapport, le ministre d'État à la justice a été cité. Cette partie a été balayée d'un revers de main par le gouvernement. Parfois, c'est une politique de deux poids, deux mesures. C'est aberrant.
Je comprends aussi le GTSC qui est dans une logique contestataire. Le contestera toujours. Ce que je tiens à dire, et je pense que nous sommes d'accord sur un point, c'est le fait que il s'agit pour l'instant de certaines allégations non vérifiées, qui accuseraient ou qui mettraient en cause des soldats de l'armée régulière, donc les FACA. Ces informations, pour l'instant, font l'objet d'une enquête qui a été diligentée par le gouvernement automatiquement dès qu'ils ont eu l'information.
Les informations sur la mort de Christiana, c'est ça?
La
mort de Christiana, sur la fille de 24 ans.
Voilà, qui aurait été violée. Donc il y a des enquêtes actuellement qui sont en cours et le gouvernement lui-même, il a pris cela en main et ces enquêtes aboutiront. Bien entendu, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous prononcer et dire tout de suite que
Vous avez parlé de deux choses différentes. Quand vous avez dit c'est des allégations, vous étiez en train de faire allusion au rapport.
Au rapport de la MINUSCA.
C'est ce que vous aviez dit.
Oui.
Voilà.
Oui, oui.
Donc vous ne parlez pas de cette jeune dame. C'est pourquoi je dis quand ça vous arrange, vous acceptez un document. Quand ça ne vous arrange pas, vous le rejetez d'un revers de main.
Vous avez deux rebondissements. D'abord pour le cas de
la jeune fille, tout à fait.
La défunte Christiana. Et après, vous pouvez rebondir sur la question.
Pour le cas de la jeune fille, des enquêtes actuellement ont été diligentées et ces enquêtes vont aboutir. Bien entendu, on ne peut pas aujourd'hui se prononcer tout de suite. Et si ces enquêtes sont avérées qu'il s'agit des soldats des forces armées centrafricaines, mais ils seront sanctionnés et conformément à nos textes. Ça, il n'y a aucun mal à cela. S'agissant du rapport, justement, comme le docteur Beniga lui-même l'a dit, les rapports de la MINUSCA, ce sont des constats. Ce sont des constats qui mériteraient d'être vérifiés. En général, ces constats-là reflètent certaines réalités. Parfois, ce sont des questions d'interprétation. Et bien entendu, il faudrait également qu'il y ait la partie nationale qui puisse également produire ses rapports. Ce n'est pas pour rien que vous... Je tiens à préciser que la MINUSCA a produit son rapport et les Nations Unies ont envoyé le Togolais qui est venu deux fois en République centrafricaine, un expert indépendant sur la situation des droits de l'homme qui a donné une conclusion qui est différente de celle de la MINUSCA. C'est dire également que le gouvernement peut également diligenter également sa propre enquête qui peut aboutir dans le sens de la MINUSCA.
Si on évoque la question de la justice, hein, les victimes ne cessent de se plaindre de la lenteur judiciaire et surtout de l'injustice lorsqu'ils voient leurs bourreaux en liberté et même responsabilisés dans certaines institutions publiques. Comprenez-vous leur calvaire à ce niveau, monsieur?
Il s'agit de quels bourreaux?
Mais les bourreaux qui sont... On parle des responsables de groupes armés.
Les responsables de groupes armés seraient qui ont commis des exactions contre certaines personnes.
Mais les responsables de groupes armés que vous avez dit à l'issue de l'accord de Khartoum qui sont responsabilisés, vous ne pouvez pas les...
Ils ont choisi aujourd'hui la paix, ils sont dans le...
Et donc il n'y aura plus de la justice pour eux.
Mais la justice travaille de son côté. D'ailleurs, le docteur Bininga lui-même l'a dit. Il a dit
je rappelle que c'est, qui a eu à gérer. C'est une plainte des victimes.
Je précise.
Et à chaque fois même, on parle de
les plaintes suivent leur procédure, leur parcours, et finiront par aboutir. Le docteur Bininga lui-même l'a dit que, malgré le fait que M. Mokom était dans le gouvernement, il a fini par être arrêté.
Et donc, non, c'est quand il a basculé dans la CPS.
Non, s'il vous plaît. La justice fait son travail. Aujourd'hui, nous avons eu la CPS qui a rendu récemment, d'ailleurs, je ne voulais pas entrer dans le débat, qui a rendu récemment des décisions concernant certains responsables des groupes armés.
Mais oui, mais et la justice vous le savez très bien que la CPS a mis la main sur Hassan Bouba. Quelle est la suite?
La CPS a mis la main sur Hassan Bouba, mais la question d'Hassan Bouba, je pense qu'elle a été longuement abordée. Il s'agit encore de spéculations que le docteur veut soulever. Il y a un problème de procédure. Le ministère de la Justice l'a relevé. Monsieur Hassan Bouba est membre du gouvernement. La moindre des choses aurait été d'informer le gouvernement ou de solliciter l'avis ou le concours du gouvernement sur cette question. Et cette question, malheureusement, n'a pas
Monsieur Pocasson Beniga, la lenteur judiciaire, c'est la plainte même des victimes pour l'instant.
Mais avant de répondre à votre question, docteur William, vous avez manifestement un problème avec les concepts en ce qui concerne mes propos. Soit ça relève de l'allégation, soit c'est de la spéculation, soit c'est une affirmation gratuite. Finalement, je ne dis rien de...
Malheureusement, c'est là.
Je ne dis rien de sensé. Manifestement, je ne dis rien de sensé.
Beaucoup de passion.
Non, je ne fais pas un débat avec de passion, ça, rassurez-vous. Je voudrais vous faire observer une chose. À un moment donné, il ne faut pas qu'on ne voit que ce qu'on représente au sein des institutions. Mais qu'on voit, une fois de plus, la République, vous ne pouvez pas faire de l'impasse sur cette question. Hassan Bouba fait partie des bourreaux des Centrafricains. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la justice qui le dit. La CPS l'a interpellé. Il a été mis en détention préventive.
Est-ce que les procédures ont été respectées?
Ça, c'est un autre débat.
Alors, vous dites qu'on doit respecter la République, mais vous dites qu'on ne doit pas respecter
J'en viens. Non. Je dis ça, c'est un autre débat. On va en parler. Je ne fuis jamais le débat, la question de la procédure. On est d'accord que c'est un présumé coupable. On est d'accord, puisque la justice l'a interpellé. Oui, mais c'est un présumé. Un présumé coupable. C'est-à-dire qu'il jouit toujours de sa présomption d'innocence.
Tout à fait.
Au nom du principe d'exemplarité, que vous connaissez d'ailleurs, en gouvernance, au nom du principe d'exemplarité, est-ce que sa place est dans le gouvernement? Moment où il est présumé coupable. Et il ne s'agit pas d'une, j'ai envie de dire, d'une petite infraction, passez-moi l'expression, mais il s'agit des crimes. On lui reproche des actes extrêmement graves. C'est un des bourreaux des Centrafricains. Tous ceux qui ont été responsables des groupes armés, tous les groupes armés dans ce pays ont tué. Et les responsables doivent rendre compte. Qu'est-ce qu'ils font dans le gouvernement? Et ils jouissent d'une immunité parce qu'ils sont membres du gouvernement. Et à partir de ce moment, ça devient extrêmement difficile. Depuis 2013, il y en a qui sont dans le gouvernement et il y a des victimes qui attendent justice. Les victimes ont raison de se plaindre.
Mais justement, vous êtes en train de le dire et vous l'avez déjà réaffirmé. Le fait d'être dans le gouvernement ou d'être pas dans le gouvernement n'empêche pas la justice de faire son travail.
Ah, mais manifestement, dans le cas, qui est le nôtre, ça empêche la justice de faire son travail.
Le cas de Hassan Bouba.
Oui, mais ça empêche la justice de faire son travail.
Y a-t-il une fonction éternelle à un poste de ministre? Aujourd'hui
même
en Europe,
les victimes vont attendre éternellement alors que les bourreaux sont là.
Moi, je suis entièrement... Aujourd'hui, on condamne encore des gens pour le génocide rwandais.
Je vous comprends.
Et également le crime
nazi. On n'arrive pas à leur mettre la main dessus. Mais du moment où ils sont là, La justice doit faire son travail. Mais la justice a empêché.
La justice est lente dans tous les pays du monde, monsieur. Voilà. On continue, monsieur Armando, s'il vous plaît.
Quelques secondes.
Est une procédure. Et que ça soit les victimes des nazis, les victimes du génocide rwandais, que ça soit les victimes centrafricaines, elles auront gain de cause. C'est une procédure.
Mais quelle explication n'est pas raison, cher ami.
Quelle explication donnez-vous à cette assertion qui dit nous n'est au-dessus de la loi?
Mais personne n'est au-dessus de la loi. Mais aujourd'hui même, le président Sarkozy, il répond de ses crimes après son mandat.
Oui,
Laissez les gens,
ils n'ont pas un mandat électif. Vous confondez les choses. Comparaison n'est pas raison. Les victimes de nazis, les victimes du génocide au Rwanda, ces victimes-là, et ces bourreaux-là, je veux dire, les bourreaux du génocide, ceux qui ont été actifs au temps du régime nazi, on continue à les traquer parce qu'on n'avait pas la possibilité de leur mettre la main dessus.
On est d'accord.
Donnez-moi un seul exemple d'un bourreau qui est connu et qui a été laissé en liberté pendant longtemps. Personne. Mais dans le cas centrafricain, il y a des présumés coupables qui sont connus, ils sont nommés. Certains ont été interpellés.
Docteur,
et ils ont été libérés.
Benigna,
c'est une vérité.
Docteur Ndjapou, je vous invite maintenant et on va prendre les réactions de nos auditeurs sur le sujet d'aujourd'hui.
Bonjour Armando Yangendi. Je pense que la situation de l'état de droit de l'homme dans notre localité est vraiment précaire du moment où les droits les plus fondamentaux du citoyen n'est pas toujours respecté. Et quand même entre les citoyens, la liberté des uns s'arrête là où celle de l'autre commence. Mais pour le centrafricain, dans sa tête, c'est lui qui devrait être respecté par l'autre. Et donc, du coup, ça pose problème. À cela s'ajoutent aussi les cas d'insécurité, les braquages, les tueries des taxis, motos et autres là. Je pense que vraiment, l'état des droits de l'homme dans notre localité est vraiment précaire. Et ça appelle à être travaillé dans ce sens.
Bonjour cher panel, je suis Eloge. Je suis à Obo dans le Hombomo. Je pense que c'est tellement déplorable. Elle est déplorable du fait qu'on viole comme on veut, on tue comme on veut. Et dernièrement, j'étais à Zemio. Nous avons enregistré ce cas de viol fait aux enfants. Ce multiple cas de viol fait aux femmes. Et là, les autorités locales se plaignent de cette question, vu qu'il n'y a pas, les FSI qui sont là. Et nos frères qui pensent qu'ils sont les plus forts, ils violent, ils tuent, ils font comme ils veulent. Vous voyez? Cette question, je demande vraiment au gouvernement de mettre l'accent sur le respect des droits humains, de déployer les FSI dans les lieux où ces cas-là sont vraiment enregistrés afin que les FSI puissent mettre l'autorité de l'État en place et que quelqu'un puisse voir au moins l'importance de ses proches, l'importance de ceux-là avec qui ils sont censés vivre ensemble. On voit aussi parfois que quand ils sont sur les barrières, ils font comme s'ils n'ont jamais appris le respect des droits humains humanitaires. Vous voyez, vraiment, c'est à déplorer. Il faut vraiment qu'on inculque à nos FSI qui sont sur les barrières, qui sont dans les provinces, qui raquettent aussi la population. Il leur faut vraiment un respect pour ces gens-là. Je vous salue, bien de choses à vous.
Bien de choses aussi à vous. Merci pour votre attachement à l'émission Patara de Radio Ndikeluka. Je rappelle que nous avons reçu plus de 150 réactions écrites. Toutes vos préoccupations sont prises en compte dans ce débat. Monsieur Ndjapou, sur cette question, vous, en tant que conseiller du président de la République, votre réaction sur les propos des centrafricains que vous venez d'écouter.
Oui, alors les propos reflètent une certaine réalité. Effectivement, il y a encore certaines violations des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas le refuser. Mais je tiens encore à le dire. Et même nous l'avons suivi tout à l'heure lors de la déclaration de la chef de la division de la MINUSCA. Les violations des droits de l'homme sont en baisse. Il y a une amélioration de la situation des droits de l'homme. C'est vrai, l'autorité de l'État. Aujourd'hui, nous sommes en train de connaître une phase incroyable de notre pays dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État. Nous avons tout un programme pour ça, le RESA. Nous avons également la réforme du secteur de la sécurité qui permet aujourd'hui non seulement qui a permis la création de zones de défense qui sont en train d'être alimentées, la loi de programmation qui permet le recrutement et la formation de l'ensemble de notre armée, leur déploiement qui est fait notamment grâce au concours de la MINUSCA et des autres acteurs, leur formation sur les questions de droits de l'homme, sur les questions de civisme, etc. Donc c'est autant de choses qui sont en train d'être faites et qui, bien que n'étant pas parfaites, tout de même, sont à encourager et à mettre en exergue.
Oui, M. Pokressa Benega, sur les réactions de Centrafricains.
Je suis réconforté par ces réactions simplement parce que les groupes armés, qu'ils soient signataires de l'accord politique, qu'ils soient non signataires ou qu'ils soient signataires et qui ont dénoncé après cet accord-là constituent un cancer pour le développement de ce pays. Les groupes armés constituent un véritable problème en ce qui concerne le respect des droits de l'homme pour ce pays. Malheureusement aussi, on constate que les institutions de la République sont également se rendent parfois coupables de violations des droits de l'homme. Mais pour ces institutions, je pense que il faut mettre en place un mécanisme permettant d'éradiquer le phénomène.
Et c'est la fin de ce débat politique d'aujourd'hui consacré aux violations des droits humains en République centrafricaine. Ceci à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme célébrée ce 10 décembre sur le thème « Reconstruire en mieux, défendant les droits de l'homme ». Nous avons fait le tour du pays sur la situation des droits de l'homme. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur www.radiondikeluka.org. Vous continuez aussi à réagir sur WhatsApp au 75 01 75 93. Merci à nos invités et merci à vous, chers auditeurs et internautes. Je vous souhaite bon week-end et surtout prenez bien soin de vous, car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.